La population mondiale est prise à témoin des horreurs infligées au peuple palestinien et y assiste en direct chaque jour. Mais le massacre continue, avec le soutien actif des États-Unis et un nombre croissant d'autres pays. L'aptitude morale de l'humanité à survivre est donc mise à l'épreuve. Ce spectacle d'horreur doit immédiatement prendre fin, en commençant par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Au moment où nous produisons cette émission, la démarche de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice obligera des réponses. La paix est possible, mais ce n'est pas la paix d'un retour au 6 octobre. Avant l'action du Hamas le 7 octobre, le peuple palestinien et toute la région, connue sous le nom de Moyen-Orient, vivaient dans une terrible réalité, comme un chaudron de conflit prêt à exploser, délibérément entretenu à des fins géopolitiques. Une tension insoutenable et injuste. La solution nécessite la reconnaissance d'un État palestinien, conformément à la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité en 1967. Il s'agit du premier pas vers une solution à long terme, telle que la solution à deux États soutenue par Elgazep Larouche, fondatrice de l'Institut Schiller. Cependant, la solution n'est ni locale ni régionale. Elle ne pourrait qu'être internationale aujourd'hui. Et la Chine a proposé une conférence de paix internationale en vue d'une paix durable israélo-palestinienne et israélo-arabe. Le sabordage des accords d'Oslo en 1993 ne doit pas se répéter. Des garanties de sécurité pour toutes les parties dans la région doivent être convenues. Et cela implique de trouver des solutions aux situations explosives ailleurs, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye et au Soudan, tous des produits de décennies de géopolitique dangereuse. Mais sans développement économique mutuel, sans amélioration du niveau de vie de chacun, des accords politiques en soi ne suffiront pas pour faire la paix. Les habitants de la région doivent savoir que leurs enfants bénéficieront d'un avenir et d'une vie meilleure. La paix grâce au développement économique mutuel est la seule base efficace pour une paix juste et durable dans la région. C'est ce que le premier ministre israélien Yitzhak Rabin avait découvert. Il n'y a pas de base purement militaire pour la paix et la sécurité. Le développement est essentiel. Un projet précis de paix par le développement économique mutuel à l'échelle du monde existe déjà, sous la forme d'un pont terrestre mondial, devenu le socle de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, à laquelle se sont ralliés plus de 150 pays, dont sont signataires tous les voisins de la Palestine et Israël. Ce projet n'est pas seulement un plan spécifique de croissance, c'est un rejet de l'hégémonisme anti-croissance, du néocolonialisme et du malthusianisme vert. Un plan robuste de reconstruction économique et de développement est indispensable pour fonder un État palestinien viable. Le penseur et économiste américain Lyndon LaRouche l'a conçu il y a 30 ans et l'a baptisé Plan Oasis. Immédiatement après la signature de l'accord d'Oslo à la Maison-Blanche en 1993 par les dirigeants israéliens et palestiniens, LaRouche et ses collaborateurs ont exhorté ces acteurs régionaux et la communauté internationale à mettre en œuvre des projets de développement économique mutuel pour soutenir et faire avancer le processus de paix. LaRouche et ses associés ont élaboré le plan Oasis qui partait de certains aspects économiques de l'annexe 4 de l'accord d'Oslo de 1993, appelé Protocole de coopération israélo-palestinienne concernant les programmes de développement régional, et demandait à les compléter avec des moyens supplémentaires pour les infrastructures en eau et en énergie, ainsi que d'autres priorités que LaRouche savait nécessaires depuis le début des années 1970. Le plan Oasis visait principalement à surmonter le grand obstacle au développement de la région, la pénurie en eau douce, grâce à la construction d'une série d'usines de dessalement d'eau de mer. Et ces usines ne se trouveraient pas seulement sur la côte méditerranéenne. Il serait construit le long de deux nouvelles jonctions, un aqueduc reliant la mer Rouge à la mer Morte et un canal reliant la mer Morte à la Méditerranée. Pour être clair, ces nouvelles canalisations ne sont pas forcément destinées au transport de marchandises, comme alternative au canal de Suez. Leur objectif est de transporter de l'eau. En raison de la faible altitude de la mer Morte, qui se trouve à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer, l'écoulement de l'eau par la gravité pourrait également fournir de l'électricité hydroélectrique en cours de route, ce qui pourrait contribuer à alimenter les usines de dessalement et le développement général. Les centrales pourraient également être alimentées par les grandes quantités de gaz naturel au large des côtes de Gaza, d'Israël, du Liban et de la Syrie et de l'Égypte. Mais plus important encore, le plan Oasis appelle à aller au-delà de l'hydroélectricité et des combustibles chimiques, à travers la construction de petites unités nucléaires, des SMR, le long de ces canaux et sur les rives de la Méditerranée et de la mer Rouge, afin de produire en abondance de l'électricité et dessaler l'eau de mer pour verdir les vastes déserts de la région et pour alimenter un processus d'industrialisation en Palestine, en Israël, en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Égypte. L'emploi civil de l'énergie nucléaire pour produire de l'énergie libérerait les ressources en hydrocarbures de la région pour un usage dans la pétrochimie, notamment pour la fabrication de matériaux à usage industriel à travers des produits pétrochimiques intermédiaires. Ces complexes nucléaires pourraient utiliser des petits réacteurs à haute température, refroidis au gaz et à lit de boulets, du même type que celui qui vient d'être mis en œuvre dans la baie de Shidao, en Chine. Les nouvelles rivières artificielles créées par le dessalement augmenteront considérablement le potentiel de développement agro-industriel dans la région. Larouche a expliqué la nécessité de développer de nouvelles sources d'eau dans un discours de 1994. Larouche. On ne peut pas atteindre les standards modernes de consommation d'eau d'une population, tant palestinienne qu'israélienne, dans les conditions actuelles. Il y a un conflit au sujet de l'eau parce que les Israéliens ont franchement utilisé leur conquête pour accaparer l'eau de tout le monde. C'est l'enjeu du conflit avec la Syrie sur la question du plateau du Golan. Cela concerne au Liban le fleuve Litani parmi d'autres. Donc cette meilleure production d'énergie et d'eau douce doit s'accompagner d'un réseau d'infrastructures de transport améliorant la connectivité physique entre toutes les nations de la région, transformant une zone de conflit, un obstacle à la connectivité, en un centre d'interaction, c'est-à-dire en un carrefour. Une autoroute reliant la Cisjordanie à la bande de Gaza, artère vitale pour l'État palestinien, est un élément absolument essentiel de ce réseau. Les réseaux routiers et ferroviaires régionaux permettront à l'ensemble de la région de fonctionner à partir d'une plateforme infrastructurelle plus performante. Larouche avait également proposé à l'époque le doublement du canal de Suez, avec des zones industrielles, un défi que l'Égypte a pris soin de relever ces dernières années. Larouche affirmait depuis 1975 que cette région, carrefour des civilisations et située géographiquement entre l'océan Indien et la Méditerranée, et entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, occupe une position unique en tant que pôle industriel et logistique. Le pétrole et le gaz naturel devront plutôt servir de matière première pour la production industrielle de plastique, de peinture et de nombreux autres matériaux utiles, au lieu d'être exportés comme de simples carburants. L'amélioration de la connectivité pour permettre des niveaux de développement plus élevés a été un élément clé de l'initiative La ceinture et la route proposée par la Chine en 2013. Utiliser cette région comme un pont terrestre entre les continents, avec les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Union européenne contribuant à son développement, stabilisera la région et, en cours de route, contribuera à cimenter de meilleures relations entre les superpuissances qui aura été nécessaire pour les faire naître. La coopération et les échanges scientifiques, technologiques et culturels sont des éléments clés du processus de transformation que représente le plan Oasis. En coopérant pour lutter contre les déserts, plutôt qu'entre eux, les habitants de la région seront mieux en mesure de reconnaître l'humanité les uns des autres. La capacité commune des êtres humains à découvrir les principes de la nature et à transformer notre relation à l'environnement qui nous entoure. Il n'y a pas d'animaux humains. Alors, comment allons-nous payer pour tout cela? Et qui paye? Une partie des capitaux proviendront d'une aide financière, rendue possible en transformant les épées en socs de charrue, en convertissant des capacités industrielles et de recherche du complexe militaro-financier en utilisation productive, comme le détaille une étude récente de l'EIR. Outre l'aide internationale, 100 milliards de dollars de crédits peuvent être obtenus sur une décennie pour la reconstruction des zones palestiniennes et la construction complète des infrastructures du plan Oasis. Cela peut être organisé par l'intermédiaire de banques de développement associées au pays BRICS+, notamment la Banque islamique de développement en Arabie saoudite, la Nouvelle Banque de développement dont le siège est en Chine, et d'autres banques nationales de développement de la région de l'Asie du Sud-Ouest. Les fonds souverains des principaux pays régionaux BRICS+, peuvent aider à capitaliser ces banques de développement à cette fin. Les pays du Conseil de coopération du Golfe disposent de fonds souverains détenant un capital d'une valeur d'environ 4 000 milliards de dollars. Cet argent a traditionnellement été placé dans des actifs financiers, bancaires ou immobiliers du système transatlantique en faillite. Aujourd'hui, ces pays recherchent plutôt des investissements plus productifs en Eurasie et en Afrique. Cet investissement peut prendre la forme de prêts de développement concessionnels accordés par ces banques, par exemple d'une durée de 20 ans avec des taux d'intérêt de 2% et un délai de grâce initiale de 5 ans si nécessaire. Les paiements du service de la dette sur ces prêts de développement, du moins s'ils sont effectués dans un avenir immédiat, devraient être effectués par l'État d'Israël, en tant qu'État occupant et taxant actuellement l'ensemble de la région d'Israël et de la Palestine. Les États-Unis, et peut-être d'autres pays, a déterminé lors d'une conférence internationale sur l'appel développement, devraient être garants du paiement du service de la dette. L'organisation des travaux de reconstruction et la construction des infrastructures du plan Oasis peuvent être organisées sous l'autorité de l'unité de logistique militaire des missions de maintien de la paix des Nations Unies, de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine et de toute autre autorité requise. Ces arrangements devraient tous être formellement convenus par les nations impliquées dans le cadre d'une conférence internationale pour la paix en Israël et en Palestine, qui doit être organisée de toute urgence. Des engagements internationaux en faveur du développement, à la fois à travers ces projets particuliers et en tant que paradigme, doivent être pris. Parvenir à la paix en Asie du Sud-Ouest, non seulement entre Israéliens et Palestiniens, mais entre tous les pays de la région entière, c'est écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité, puisqu'une région connue pour ses conflits se transformera en une région de connectivité, se trouvant au carrefour de trois continents. Le plan Oasis n'est pas une aspiration lointaine de ce qui pourra être réalisé des années après la paix. Ce n'est que grâce à un paradigme de relations internationales soutenant cette approche que la paix est possible. Il est urgent de mettre un terme aux tueries et d'instaurer le cessez-le-feu. Mais il est tout aussi urgent d'élaborer une vision de paix durable qui façonnera enfin un destin pacifique et prospère pour la région. Chaque minute où la guerre se poursuit entraîne davantage de morts, davantage d'amertume et davantage de difficultés pour parvenir à une prospérité partagée. Il faut que ça finisse maintenant. La justice pour ceux qui sont morts, les déplacés, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont souffert, exige que cette violence effroyable réveille la conscience et la raison de la communauté internationale. Non seulement pour dire plus jamais ça, mais pour mettre fin à jamais au paradigme géopolitique qui est à l'origine de la plupart des conflits dans le monde d'aujourd'hui. Le plan Oasis ne peut pas être mis en œuvre comme un plan purement régional. Pour cela, une nouvelle architecture de sécurité et de développement est nécessaire à l'échelle mondiale. Les voix des pays du Sud deviennent plus fortes et plus confiantes. L'autorité morale aujourd'hui et demain dépend de la façon dont nous agissons aujourd'hui. Larouche écrivait en 1978: La seule chose humaine est de donner un sens à la vie et à la souffrance des morts, non seulement en établissant la paix au Moyen-Orient, mais en établissant les bases d'une paix qui offre un épanouissement à la vie des générations actuelles et futures des Palestiniens et d'autres Arabes. Et donc, le but est de donner un sens aux vies de ceux qui sont morts. Cela s'applique également aux Israéliens. Et qu'en est-il de vous? Allez-vous agir pour donner un sens à la vie de ceux qui ont péri? Serez-vous une voix pour la paix et le développement? Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Pour en savoir plus sur le plan Oasis et sur les moyens de soutenir les efforts de l'organisation de Larouche, et pour que cela devienne une réalité, suivez le lien ici et dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, activez les notifications, assurez-vous de le faire pour rester informé de l'évolution de ces idées et de cette vision.